À Berlin, en Allemagne, négociateurs européens et ukrainiens discutent des modalités d'un cessez-le-feu, bien sûr, entre l'Ukraine et la Russie. Le chancelier allemand Friedrich Merz se montre optimiste sur les chances de réussite de ces négociations, tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou dit ne pas être au courant de cette proposition et décide de porter plainte, Lise et Jonathan vous en parlaient dans le journal à l'instant, décide de porter plainte contre la banque bruxelloise Euroclear pour récupérer les quelques 200 milliards d'euros de ses avoirs qui sont gelés, justement, depuis son invasion de l'Ukraine. On fait le point sur cette situation avec David Rigoulet-Rose, docteur en sciences politiques, enseignant et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi qu'associé à l'EIS MENA. Il est au micro de Jonathan Serrero.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir David. Partagez-vous, première question, la confiance du chancelier allemand Friedrich Merz sur les chances d'imposer un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie prochainement?
Tout ça s'inscrit dans l'optimisme affiché par le président Donald Trump, et les Européens ne veulent pas déroger à la règle, dans la mesure où ils essaient d'associer le président Donald Trump à des ajustements sur le plan initial qui était très en défaveur de Kiev. Et donc le soutien européen passe aussi par un affichage d'un optimisme relatif. Relatif parce qu'en réalité, les points essentiels n'ont pas été réglés. Il y a eu des progrès, manifestement, qui ont été, puisque le président Donald Trump dit qu'on est très proche d'un accord, mais en réalité, il y a un point qui subsiste et qui est le point central, c'est la question des territoires, des concessions territoriales. Et là, on voit pas très bien comment les choses pourraient se dénouer, a fortiori parce que les Européens sont perçus par Moscou comme une force hostile, sinon ennemie, et les Russes ne veulent pas que les Européens rentrent dans le cycle le processus de négociation parce qu'ils savent qu'ils sont en position de pouvoir peser de manière relative au profit de Kiev.
Alors, comment analysez-vous l'attitude des Européens, des Américains dans ces négociations? Les Européens discutent avec les Ukrainiens, ils se mettent d'accord, ils semblent se mettre d'accord sur tout un tas de mesures. Les Américains, eux, tentent tant bien que mal de maintenir le dialogue avec Moscou et de faire le pont entre toutes les parties. Et le Kremlin affirme à chaque information positive, entre guillemets, sortie de Berlin, ne pas être au courant de cette information. Qui bluffe
oui,
dans
bah
cette histoire?
Bah c'est de toute façon dans ce type de négociation où il y a plusieurs plateformes qui sont dissociées géographiquement notamment et donc c'est un jeu théâtral incontestablement. On voit bien que les positions et des uns et des autres sont effectivement souvent présentées de manière particulière pour influer, pour inciter une évolution de la dynamique, mais en réalité il y a des points d'achoppement qui demeurent. Donc l'obsession de Donald Trump, c'est de parvenir à un règlement, j'allais dire presque à n'importe quel prix, y compris celui des intérêts évidemment ukrainiens. Les Européens, eux, cherchent à ce que Donald Trump ne s'éloigne pas trop, ne rejoigne pas trop justement dans une convergence de vue Vladimir Poutine pour pouvoir préserver justement des intérêts ukrainiens en proposant notamment une force multinationale qui serait susceptible de, dans le cadre d'une fameuse zone démilitarisée dans le Donbass, de pouvoir donner des garanties de sécurité qui sont attendues des Américains mais qui ne sont pas confirmées. Donc on voit bien qu'on est potentiellement dans un jeu de dupes.
Est-ce que vous pensez, David, que les Européens jouent avec le feu et risquent de se brûler en voyant Moscou intensifier, pourquoi pas, ses opérations d'intimidation contre certains sites stratégiques, je pense en Belgique ou en France ou même en Pologne? Ou pourrait-on voir Vladimir Poutine décider d'autres opérations peut-être plus intenses ou plus violentes?
C'est pas exclu du tout. C'est même vraisemblable parce que les Européens constituent un bug dans les négociations bilatérales russo-américaines, d'une certaine manière. Et c'est un moment de vérité non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Et là, on touche à la question très sensible que vous évoquez, c'est-à-dire des fonds russes gelés dans l'institution Euroclear, qui est effectivement une institution dépositaire des avoirs russes de la Banque centrale, quelques 200 milliards, que les Américains ont réussi à geler de manière indéfinie jusqu'à la fin du conflit, alors même que Donald Trump voulait les dégeler, entre guillemets, pour alimenter un processus de reconstruction en partenariat avec avec Moscou. Donc là, on arrive à un moment de vérité avec le Conseil européen du 18 et 19, parce qu'il y a eu le gel, mais la question, c'est effectivement du prêt à l'Ukraine, qui a besoin de près de 137 milliards pour les deux ans à venir. Sinon, l'Ukraine n'a pas les moyens financiers de survivre, tout simplement. C'est, on va dire, il y a effectivement une procédure juridique tout à fait exceptionnelle qui a été mobilisée par les Européens pour pouvoir préempter, on va dire, une garantie financière à un prêt qui serait accordé à Kiev. Et ça suscite beaucoup, évidemment, de critiques, évidemment, avec de Moscou, qui a lancé une procédure judiciaire contre Euroclear de recouvrement de dommages. Parce que c'est la véritable arme, en fait, des Européens. Les Européens sont en situation compliquée sur le plan militaire. Ils ont épuisé leur stock pour aider l'Ukraine. La véritable arme contre Moscou, mais aussi contre les Américains, d'une certaine manière, c'est effectivement le gel de ses avoirs.
Est-ce que on peut dire que l'Union européenne est tombée dans le piège de Moscou, puisque Moscou a essayé de gagner du temps depuis toutes ces années, et puis finalement Moscou réclame son dur, réclame son argent?
Oui, alors il y a des risques juridiques qui ont été soulevés, y compris par la BCE, par Christine Lagarde et d'autres. Il y a des pays qui sont très réticents. D'abord la Belgique, parce que c'est le siège de l'institution. Il y a aussi la Hongrie, évidemment, qui est opposée. Mais et puis il y a des hésitations, des réticences de la part de l'Italie, de Malte, de la Bulgarie, tout simplement parce que ça ferait précédent. C'est fondé sur l'article 122 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. C'est un peu l'équivalent, toutes choses égales par ailleurs, du 49-3 au Parlement français. C'est une procédure d'urgence qui permet en fait d'éviter les blocages de l'unanimité et de passer par un vote à la majorité qualifiée qui rend possible effectivement potentiellement un prêt, mais qui est perçu comme une agression en réalité. C'est présenté comme tel par Moscou de la part des Européens qui confirment dans le narratif de Moscou que les ennemis des négociations et finalement les véritables ennemis de Moscou seraient les Européens plus que évidemment l'administration américaine.
Dernière question, David. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne, d'une certaine façon, par sa décision de bloquer définitivement les actifs russes, a fait fi des intérêts économiques domestiques de la Belgique, qui compte aussi beaucoup sur ses avoirs pour faire fonctionner son économie?
Oui, elle a demandé des garanties, effectivement, qui pour l'instant lui ont pas été données en tant que telles, parce que la Belgique, notamment sur le plan d'une place forte financière, et donc il y a avec Bruxelles, et donc il y a le risque que la Belgique se retrouve finalement spécifiquement visée par des mesures discriminatoires et punitives russes. Mais on voit qu'un pays comme le Luxembourg, qui est un centre financier, qui était d'abord réticent, a validé la démarche. En réalité, c'est pour si la décision est bien effective concernant le prêt accordé sur gagé sur ces avoirs gelés russes, c'est la première vraie décision européenne d'une certaine manière qui joue un peu toutes choses égales par ailleurs son destin géopolitique par rapport à ce qui est en train de se passer dans le justement depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine.
David Rigoulero, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci.